Solidarité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on parle de l'accès à la contraception dans ce pays. Comment faire pour que plus de femmes puissent utiliser justement les moyens de contraception modernes? Quatre personnes autour de cette table pour en parler. Le docteur Nathalie Akissi Yaoundri, qui dirige les programmes de l'Association Ivoirienne pour le Bien-être Familial, la IBF. Le docteur Virginie Kouakou, qui est la toute nouvelle directrice de la coordination du Programme National de Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale, qui est venue avec son adjoint, Hyacinthe Ando. Et le professeur Karidiata Touré-Koulibaly, qui est chef du service de gynécologie au CHU de Trècheville. J'aimerais bien vous redonner justement la parole, docteur Nathalie Akissi Yaoundri. Vous travaillez à la IBF, cette association a été plusieurs fois citée dans la première partie de cette émission. Concrètement, qu'est-ce que vous faites justement pour rendre ces moyens de contraception plus facilement accessibles aux femmes?
Donc, au niveau de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, il faut dire que nous avons un partenariat naturel donc avec le ministère de la Santé. Et ce partenariat a permis à l'IBF d'être représenté dans les anciennes 10 capitales de région de la Côte d'Ivoire. Et donc l'IBF a son siège à Abidjan avec 2 cliniques au niveau de Trècheville et Yopougon. Et donc présente à Daloa, à Yamsoukro, à Bondoukou, à Man, à Diokoué, à Korogo, à San Pedro. Et donc, dans ces villes, en dehors de Bondoukou, l'IBF a une clinique dans chacune de ces villes où elle offre les services de planification familiale. À côté de cela, l'IBF, toujours dans le partenariat avec le ministère de la Santé, offre les services de planification familiale dans certains centres publics du ministère de la Santé, donc avec l'accord du ministère de la Santé, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Il y a aussi que l'IBF établit des partenariats avec les cliniques privées, donc pour l'offre de ces services. Donc l'IBF a pu ces cliniques privées en matière de formation, en matière de disponibilité des méthodes contraceptives et de supervision et vraiment de suivi de ces produits. Et aussi avec certaines entreprises privées où l'IBF offre les services de planification familiale. Et donc tout ça, ça reste au niveau des centres. Mais vraiment pour que la planification familiale soit accessible, l'IBF offre aussi ses services en communauté. Donc nous avons des consultations foraines, donc nous allons vers les populations les plus reculées qui n'ont pas vraiment accès au centre de santé, où nous déployons tout notre dispositif personnel, matériel, avec produits, et nous offrons ces services. Et tout ça avec l'appui financier de nos partenaires. Donc nous le faisons constamment. Et donc aussi dans le cadre du CDD, donc la politique d'intensification de la planification familiale en Côte d'Ivoire, l'IBF va bénéficier d'une clinique mobile. Donc cette clinique mobile va nous permettre de sillonner les villages, les campements qui sont vraiment reculés et offrir ces services.
De façon très concrète, comment ça se passe dans une clinique tenue par votre association? Il y a des médecins, des sages-femmes qui sont là et qui offrent des consultations?
Oui. Si nous prenons par exemple la clinique de Trècheville qui est ici à Abidjan, nous avons des médecins, sages-femmes, infirmiers, donc tout le personnel médical, filles de salle et autres. Et donc... La patiente arrive, elle arrive à l'accueil, donc pour recevoir le service, elle est reçue. En fonction du service qu'elle veut recevoir, donc si c'est le service de la planification familiale, elle est orientée vers le conseiller. Donc le conseiller, parce que tout à l'heure nous avons parlé de comment faire pour que les femmes utilisent les méthodes. Et le professeur vous a dit, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on ne fait pas de bilan avant la prise de pilule. Donc, il faut beaucoup mettre l'accent sur le counseling. Donc, nous avons des conseillers qui vont vraiment parler de toutes les méthodes qui existent à l'IBF, à la cliente, les avantages, les effets secondaires, les inconvénients, et maintenant, laisser le choix éclairé à la cliente. Parce qu'on n'oblige pas une cliente à prendre une méthode, il faut que la cliente même puisse faire son choix en fonction des informations qui sont données.
Ça, c'est important, parce que si on veut qu'elle adhère à la méthode, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle l'ait choisie. Voilà. Et alors justement, de façon très concrète, en général, les femmes en Côte d'Ivoire choisissent quel moyen de contraception en priorité?
Bon, en priorité, quand les femmes viennent, elles sont beaucoup plus informées sur la pilule que la méthode traditionnelle. Elles viennent avec la pilule, un peu l'injectable, et quand elles arrivent, qu'elles reçoivent les informations sur les autres méthodes, elles peuvent venir avec en tête de prendre la pilule, mais à la suite des informations qu'elles reçoivent, elles peuvent repartir avec autre chose, mais sans qu'on l'ait obligé.
Tout à fait. Et alors, la question du coût, la consultation chez vous, c'est combien? Et quand on repart avec un moyen de contraception, ça coûte combien?
Bon, globalement, pour repartir avec un moyen de contraception, si je prends le moyen le plus élevé, donc en l'occurrence les implants et le DIU, c'est moins de 5 000.
5 000 francs CFA.
Moins de 5 000 francs
CFA. Et l'implant, il tient 3 ans, donc c'est 5 000 francs CFA pour 3 ans. 8 euros, 9 euros, à peu près, c'est ça?
Voilà, à peu près. Et si c'est la pilule, vous en avez pour la première consultation, vous avez 700 francs. 500 francs pour la consultation et 200 francs pour la plaquette de pilule. Les injectables, c'est autour de 1100 francs.
Donc la consultation est aux alentours d'un euro et la plaquette, donc pour un mois, c'est aux alentours de 30 centimes d'euros, c'est ça, si je fais un calcul assez rapide.
Exactement.
Mais là, pour le coup, c'est après à renouveler tous les mois. Les femmes, justement, qui choisissent la pilule, elles reviennent bien régulièrement tous les ans en consultation? Parce que ça, on sait qu'on insiste beaucoup en France là-dessus. Est-ce qu'elles le font?
Certaines reviennent pour la consultation à un an. Mais je pense que tout est mis dans le concilium. Parce que quand la femme a reçu déjà la bonne information dès le départ, elle comprend la nécessité de venir à son premier rendez-vous au terme de ce 1 an. Donc c'est vraiment important d'insister sur le concilium.
Et cette consultation tous les ans pour faire le point sur la méthode contraceptive. Yacine Ando, vous vouliez réagir?
Oui, je vous ai dit que dans le système public, la consultation des PF est gratuite.
La consultation de planning familial est gratuite.
Si vous rendez dans un centre de santé, vous faites votre consultation gratuitement. Le produit, il est payant. La pilule, c'est 150 francs. Les injectables, c'est 500 francs. Les stérilés et les implants font 1000 francs.
Et alors, pourquoi c'est plus cher à l'Association pour le bien-être familial? Vous bénéficiez pas mal de financements internationaux, d'ailleurs.
Oui, mais nous sommes une organisation non gouvernementale. Donc, nous vivons aussi des recettes que nous générons.
C'est ça, il faut vous autofinancer.
Voilà, il faut s'autofinancer. C'est vrai que nous avons des partenaires, mais ce n'est pas suffisant.
Et on citait tout à l'heure l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Il vous fournit quoi, quasiment gratuitement tous ces moyens contraceptifs?
Oui, c'est l'occasion de remercier l'UNFPA parce que nous recevons gratuitement les produits de l'UNFPA.
Et alors, pourquoi si vous les recevez gratuitement, vous ne les redonnez pas gratuitement?
Voilà, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de ces moyens pour continuer de fonctionner. Et donc l'UNFPA l'a bien compris et donc nous autorise à vendre ces produits, mais vraiment à des coûts sociaux pour permettre à nos populations de vraiment avoir accès à ces produits.
Professeur Karidiata Touré-Colibelli, cette question du coût, les femmes s'en plaignent, vous disent mais c'est trop cher ou finalement c'est pas tellement l'argument qui est avancé?
C'est sûr que le pouvoir d'achat de la population est basse. Mais quand elles ont décidé, je ne pense pas que ce soit ça qui les arrête.
Et alors, qu'est-ce qui les arrête? C'est le temps de la prise de décision de se mettre sous contraceptif, c'est
la
ça?
La sensibilisation, la prise de décision. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'avis du mari. Tant que lui n'a pas donné son avis, ça reste compliqué.
Et c'est compliqué de convaincre les maris là-dessus?
C'est pas facile. Docteur Yacine, tu as quelque chose à ajouter?
Oui, c'est ça. Alors, je vous fais réagir.
Effectivement, toutes les études qui ont été réalisées ont montré que le rôle prépondérant dans le choix de méthode. Une étude même a montré que l'utilisation de la contraception dépend avant tout du niveau d'instruction du mari que c'est de celui de la femme.
Mais qu'est-ce qui gêne le mari sur un moyen de contraception? Oui, il a envie d'avoir sa femme en bonne santé.
Oui, ça aussi, bon, nous sommes en train de réaliser une étude et dans le Grand Togo, pour apprécier un peu l'implication. Pourquoi les hommes s'opposent tant à l'utilisation de la contraception? Donc avec l'appui, je voulais aussi la remercier, l'AFD, à travers ce projet.
L'Agence française de développement qui finance
ce projet d'intensification de la planification familiale. En fait, elle va nous permettre de réaliser une étude dans le Grand Togo pour apprécier pourquoi les hommes sont si réticents à la planification familiale.
Et d'ailleurs, l'Association pour le bien-être familial a aussi des financements de l'AFD, hein, c'est ça, de la France aussi, sur cette question de planification.
Par rapport à ce financement, je voulais dire que nous avons reçu dans l'ensemble 5 milliards
de francs CFA.
Donc nous avions le ministère du Programme Santé de la Reproduction à 0,6 milliards, l'ABF à 2 milliards quelque chose, et puis l'AIMAS à 1 milliard et quelque chose.
C'est ça aussi. Alors, je voudrais vous faire réagir là-dessus, docteur Virginie Kouakou. Comment faire, et parce que c'est une partie de votre travail là aujourd'hui, comment faire évoluer les mentalités? Quels sont les messages à faire passer pour que les hommes et les femmes soient plus convaincus de l'intérêt de ces moyens contraceptifs?
Je pense que dans le cadre même de nos documents de politique et de stratégie, nous avons décidé d'impliquer davantage les hommes et donc de les sensibiliser, d'impliquer également les leaders communautaires, les leaders religieux, parce qu'il y a une association qui rassemble les leaders religieux et qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. Et donc nous les sollicitons pour qu'eux aussi à leur niveau nous aident à passer les messages de santé, notamment la planification familiale. Les leaders religieux sont très souvent écoutés par leurs co-religionnaires, au point où, dans le cadre de la santé infantile, nous avons eu de bons résultats, également dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, et donc nous impliquons ceci. Et comme l'a dit Yacine tout à l'heure, cette étude-là va mettre en exergue les différents goulots d'étranglement, c'est-à-dire les problèmes qui font que les hommes ne s'impliquent pas véritablement et n'accompagnent pas leur épouse dans le choix de leur méthode contraceptive.
Professeur Karidiata Touré-Koulibaly, vous êtes chef de service de gynécologie au CHU de Trècheville. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement pour rendre cette contraception plus accessible, mieux acceptée?
C'est le même problème. En gynéco, très peu d'hommes accompagnent leurs femmes aux consultations. Je pense que lorsqu'on aura atteint ça, ils seront plus accessibles à la sensibilisation. Il faut voir les personnes qu'il faut sensibiliser.
Je ne voudrais pas être un peu brusque dans ma question, mais franchement, les femmes, elles ne peuvent pas décider toutes seules du moyen contraceptif qu'elles vont prendre. Elles ne sont pas obligées d'en informer le mari.
C'est un problème culturel. Je pense que maintenant, avec tout ce qui est en train d'être fait, ça va changer.
Petit à petit, ça change. Dans les jeunes filles, qu'est-ce que vous voyez justement? Ça évolue?
Les jeunes filles, c'est un double problème parce qu'il y a les parents et il y a également le conjoint.
Et c'est ça qui est compliqué. On va revenir d'ailleurs sur les jeunes filles. Mm-hmm. Juste, docteur Yao Ndri, quelles sont pour vous les difficultés que vous rencontrez dans le fonctionnement justement de votre association, la IBF?
Il faut dire que c'est aussi les mêmes problèmes. Hein. Quand l'homme n'accompagne pas sa femme, il n'a pas la bonne information. Et donc, il se contente des informations erronées. Donc, c'est ce qui fait que les hommes sont beaucoup, beaucoup réticents à l'utilisation des méthodes de planification familiale.
Mais vous ne dites pas aux femmes qu'elles ne sont pas obligées de le dire à leur mari?
Bon, pour l'instant, on est dans une dynamique où il faut que ça soit le couple qui décide. Parce que faire un enfant, ça se fait à deux. Donc, nous ne disons pas aux femmes que vous pouvez prendre sans informer votre mari. Nous faisons tout pour que au moins le mari vienne et qu'on informe le mari pour que le mari adhère à cela. Et quand c'est comme ça, quand le couple choisit, vous allez voir que l'observance est très bonne. La femme va continuer pendant longtemps la méthode et donc il y aura un bon taux de succès par rapport à la méthode. Donc c'est très important d'impliquer les hommes.
Et quand les hommes viennent, en fait, vous arrivez à les convaincre, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Oui.
Il faut juste les joindre.
Voilà, il faut que les hommes arrivent au centre.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour parler de l'accès à la contraception. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de la question des grossesses précoces. Dans les derniers chiffres que j'ai pu lire avant de venir ici en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y avait eu plus de 5000 cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire. Je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, ou en 2012. Plus de 20% de filles adolescentes en Côte d'Ivoire âgées de 15 à 19 ans vivent déjà en couple. Comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes aient accès à la contraception et éviter ces grossesses précoces? J'imagine que c'est quelque chose qui vous préoccupe, professeur Touré-Koulibaly.
C'est très préoccupant dans la mesure où nous nous trouvons dans une période où on parle de la scolarisation, du maintien à l'école et du leadership des femmes. Maintenant, comment changer? Les jeunes, les adolescents, jusqu'ici, il leur manquait quelque chose pour eux, pour la planification familiale. Je crois qu'il leur faut un espace un peu spécial. Parce que se retrouver dans cet espace avec des femmes de l'âge de leurs parents, de leurs grands-parents, ça fait un certain frein parfois.
C'est-à-dire que vous voulez dire que ces jeunes filles, elles n'arrivent pas dans vos services de gynécologie au CHU?
Pas au rythme auquel elles devraient venir, parce qu'elles sont nombreuses. Ces jeunes, ils sont au courant, ils lisent, ils sont informés, mais ils sont parfois gênés d'aller dans ces centres où ils vont rencontrer des parents, des amis de leurs parents et tout.
Qui vont dire, voilà, j'ai vu ta fille à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait? On imagine bien ce qui se passe derrière dans le genre de conversation. Avant de donner la parole au docteur Kouakou, juste une précision au professeur.
Oui.
Vous vous battez contre ces grossesses précoces parce qu'en fait c'est dangereux pour la jeune fille d'avoir un enfant trop tôt. Pourquoi? Expliquez-nous.
Trop tôt parce que c'est un organisme qui est immature, qui n'est pas prêt pour un accouchement normal. Le taux de césarienne est très élevé et la vulnérabilité financière de ces jeunes filles font que ces grossesses sont mal suivies, ce qui ajoute au risque.
C'est ça, c'est dangereux pour la jeune fille, c'est ça qu'il faut bien insister là-dessus. Le
oui.
corps de la femme, il n'est pas fait trop tôt pour avoir un enfant. Docteur Kouakou, alors justement, effectivement, cette question d'éviter ces grossesses précoces, c'est un peu votre rayon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour éviter ces grossesses en milieu scolaire chez des jeunes filles trop jeunes?
Il faut mettre un accent sur la sensibilisation, renforcer la communication sur la prévention des grossesses précoces. Également, offrir des services conviviaux. Ce sont des services qui sont basés dans les services de santé scolaire et universitaire. Dans ces services-là, c'est des jeunes de l'âge de ces jeunes filles qui se retrouvent pour résoudre effectivement le problème de l'utilisation des services que les parents utilisent. Donc, c'est des centres conviviaux et de plus en plus, l'accent est mis sur ces centres-là où les pères éducateurs se retrouvent, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes approches, ils ont les mêmes technologies de l'information pour se cultiver. Et ce qui fait qu'ils se parlent entre eux parce qu'ils ont les mêmes problèmes qu'ils adressent. Et également, des supports de sensibilisation sont confectionnés avec eux-mêmes pour pouvoir toucher leur cible. Parce que nos supports classiques que nous utilisons, souvent ne les touchent pas directement. Avec eux, on a commencé à faire un travail pour qu'ils soient sensibilisés par leurs propres amis.
Tout à l'heure, vous avez même dit qu'il faudrait qu'il y ait finalement des centres de planification familiale dans les écoles. J'imagine que c'est une très bonne idée, mais quelle est la réaction des parents quand vous proposez ce genre de choses? Est-ce qu'on ne vous dit pas, oulala, mais vous allez donner des idées aux jeunes filles en mettant des centres de planification dans les écoles?
Claire, donc, les parents même savent que les jeunes ont de plus en plus, de façon précoce, des relations sexuelles. Et donc, il y a aussi ce problème de parents-enfants. Nous n'arrivons pas souvent à communiquer avec nos enfants. Donc il y a un accent à mettre sur la communication parents-enfants. Et ces centres, ces services scolaires universitaires ne font pas que la planification familiale. Ça prend également en charge les enfants atteints d'autres pathologies, les soins dentaires, etc. Donc les parents n'ont pas a priori l'idée que ces enfants fréquentent ces centres spécifiquement pour aller utiliser des méthodes contraceptives.
Est-ce qu'il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école?
Oui.
Et effectivement, c'est fait?
Le ministère de l'Éducation nationale a commencé à faire cela parce que des études, je ne sais pas si c'est des études sur une longue période, mais les journaux ivoiriens ont commencé à publier des chiffres importants. Ces chiffres qui montrent que ces jeunes filles qui sont enceintes le sont parfois par la faute de leurs enseignants. Et donc, dans les programmes scolaires, la ministre de l'Éducation nationale et sa sœur aussi, la ministre de la Santé, ont pris leur bâton de pèlerin pour ensemble conjuguer leurs efforts afin d'adresser cette question-là de la grossesse des jeunes filles en milieu scolaire.
Alors là, on est plus sur une question d'harcèlement sexuel ou de viol dans ces situations-là, clairement.
Oui.
C'est pas des relations sexuelles choisies.
Oui. Et des menaces même sont prodiguées. Parce que certains enseignants risquent la prison. C'est le droit du supérieur vers l'inférieur. Et donc, c'est un viol.
C'est ça. Il y a un gros travail à faire là-dessus de sensibilisation. Docteur Nathalie Akissi-Yaoundéry, qu'est-ce que vous faites justement à l'AIBF, à l'Association Ivoirienne pour le Bien-être Familial, pour que ces jeunes filles osent franchir la porte de vos cliniques?
Donc, il faut dire, comme on l'a dit, l'AIBF est une ONG qui est affilié à la Fédération internationale pour la planification familiale, donc l'IPPF. Et il faut dire que l'IPPF a pour cible prioritaire les jeunes. Donc l'IBF a cette politique de développer des cliniques jeunes. Nous avions une clinique jeune qui était à Abobo, un quartier d'Abidjan. Et donc à la suite de la crise, cette clinique a été fermée. Et aujourd'hui, elle a été réouverte à Yopougon. Et avec l'appui du CDD, donc de l'AFD, nous allons développer cette clinique jeune qui se trouve à Yopougon. Et donc, vraiment, c'est une clinique spécifique aux jeunes. Et donc, les jeunes vont, et ils ont aussi des pères jeunes qui sont formés sur la sexualité, qui sont formés sur tout ce qu'il y a en matière de SR. Et ces jeunes, la santé de la reproduction, santé sexuelle et reproductive. Et donc, ces jeunes, vous savez que c'est plus facile de parler entre personnes du même âge. Et donc, ces jeunes se trouvent aussi dans ces centres, en plus du personnel de santé que nous avons, ces jeunes sont là pour communiquer avec leurs pères jeunes et donc leur donner la bonne information.
Et alors, est-ce que là, vous faites des tarifs, entre guillemets, différenciés? Parce qu'on sait que les jeunes n'ont vraiment pas beaucoup d'argent quand ils sont étudiants. Est-ce que là, du coup, vous faites des tarifs encore plus faibles?
Oui. Avec les jeunes, dans la clinique jeune, c'est des tarifs vraiment plus faibles. Mais quand les jeunes se retrouvent dans la clinique les autres cliniques des adultes, c'est pratiquement le même coût qui est pratiqué. Mais dans la clinique jeune, c'est un coût qui est différent.
Professeur Touré Koulibaly, ce qu'on entend beaucoup, nous, dans l'émission Priorité Santé, c'est des jeunes filles qui craignent la première consultation chez le gynéco. Et on sait que c'est un frein, elles ont peur. Alors racontez-nous d'abord comment se passe cette première consultation et essayez de rassurer les jeunes qui nous écoutent.
La consultation prénatale et les jeunes filles, c'est un problème. Même chez les adultes, c'est un problème. Pour des raisons culturelles, elle se fait toujours tardivement au lieu de venir au début de la grossesse. Certaines croyances veulent que plus longtemps une grossesse reste cachée, plus elle a des chances d'évoluer normalement. Pour les jeunes filles, ce qui s'y ajoute, c'est qu'il y a la crainte des parents, il y a la crainte que ça se sache. Mais la sensibilisation est en cours. Et les parents sont conscients par rapport pas à la grossesse. Personne n'est conciliant par rapport à la grossesse. Par rapport à la planification familiale, on reçoit quelques parents qui viennent, qui ne parlent ni de sexualité, ni de planification familiale, mais qui déposent le jeune en face du gynécologue et qui lui dit, comme elle devient une femme, j'aimerais que vous lui expliquiez un peu les choses. Je pense que c'est déjà bon.
C'est déjà pas mal, ça,
mais
absolument.
Mais il devrait être beaucoup plus clair. Maintenant, la stratégie pour amener les enfants, les jeunes, à la consultation prénatale, je pense que c'est l'éternel problème. Il faut passer par les parents également, il faut passer par les conjoints. Et moi, je suis heureuse de ces établissements où les pères les prennent en charge, ça serait l'occasion également de leur expliquer l'importance des consultations prénatales, surtout de la première consultation prénatale qui permet déjà d'évoquer les risques qui peuvent émailler de complications le reste de la grossesse.
Docteur Yaoundri, est-ce qu'effectivement vous sentez dans les jeunes filles cette peur de la première consultation chez le gynéco?
Oui, comme les jeunes filles n'ont pas souvent l'information qu'il faut, donc elles ne savent pas trop comment ça va se passer et donc elles ont peur. Mais je pense que de plus en plus quand même, les jeunes filles, en dehors même de l'autorisation parentale, les jeunes filles elles-mêmes, puisqu'elles sont, beaucoup vont à l'école, certaines partent à l'école, elles ont l'information, donc elles viennent pour confirmer. Donc elles viennent quand même de plus en plus. Dans nos centres, nous recevons beaucoup de la fréquentation de jeunes. Et je peux dire que en 2013, sur plus de 170 000 clients que nous avons reçus en matière de planification familiale en termes de nouveaux accepteurs, nous avons plus de 40% qui étaient des jeunes.
On arrive à la fin de cette émission. Juste en quelques secondes pour conclure, docteur Kwaku, c'est ça votre objectif aujourd'hui, toucher mieux les jeunes, les jeunes filles?
Je pense que c'est une priorité pour nous, toucher les jeunes. Parce que, madame, le professeur l'a dit tout à l'heure, les jeunes filles, c'est une cible pour nous qu'il faut adresser si nous voulons vraiment infléchir le taux de mortalité des femmes en Côte d'Ivoire. Parce que ces jeunes filles, qui prennent des grossesses précoces vont, à terme, certainement avoir des complications qui peuvent aboutir à un décès. Alors qu'aujourd'hui, avec nos 614 décès pour 100 000 naissances, nous devons adresser toute cette question de mortalité en trouvant des stratégies et en mettant en œuvre des interventions à haut impact, dont une est la planification familiale. Et nous avons aussi les consultations prénatales, les soins obstétricaux, néonataux, d'urgence, etc. pour que, comme on le dit dans notre vision, aucune femme ne meurt en donnant la vie et que chaque enfant naisse en bonne santé et grandit sainement.
Merci beaucoup à tous les quatre, à toutes d'être intervenus dans cette émission sur l'accès à la contraception en Côte d'Ivoire. Si j'ai bien compris, on fera un point dans 2 ans pour savoir où vous en êtes. Merci beaucoup à toutes. Lundi, on sera de retour à Paris. On parlera des problèmes ophtalmologiques. Et d'ailleurs, vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, nous faire part de vos questions par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois. Ou bien sûr, comme toujours, sur Facebook. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Didier Bleu, Assetou Samaké. Et aujourd'hui, à la technique, Denis Chastel et Marc Fichet. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi, donc, à Paris.